Vous êtes sur Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos.
Emmanuel Macron confirme qu'il y a des signes de résurgence de l'épidémie, mais il assure que la France est prête en cas de deuxième vague sur le port du masque obligatoire en lieu clos. Il était temps, disent les médecins. Les jeunes au cœur de cette interview du 14 juillet du chef de l'État particulièrement impacté par la crise. Le président annonce un dispositif exceptionnel d'exonération de charges, insuffisant pour le principal syndicat d'étudiants.
Les étudiants-là en master, ils ne rentrent pas dans les critères qui ont été donnés par le président de la République sur l'exonération des charges. Et ça, pour nous, c'est un vrai point faible.
Dans ce journal, nous allons bien entendu détailler les annonces présidentielles. On verra notamment qu'il n'a pas beaucoup été question d'écologie. Ce matin, les soignants étaient à l'honneur, place de la Concorde à Paris, pour une cérémonie inédite.
Moi, vraiment, l'émotion, elle est montée directe. Et j'entendais aussi mes collègues qui disaient « Ah, c'est émouvant d'arriver comme ça et que tout le monde applaudisse ». C'était assez impressionnant.
Dans ce journal, nous serons également à Nice, 4 ans après l'attentat sur la promenade des Anglais. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,96% à 5007 points. Un temps souvent nuageux et humide demain. Les chanceux qui sont en bord de Méditerranée auront un peu de soleil, mais attention, avec du Mistral et de la Tramontane. Les températures partout seront en légère baisse. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis vous aimez lire, ça tombe bien, nous aussi. Après le journal, on partira à Bordeaux avec Stéphane Place et les bons conseils lecture de la librairie Mola pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on décrypte donc ensemble ce soir l'interview d'Emmanuel Macron en ce 14 juillet, interview que vous avez pu suivre en direct sur Europe 1. Alors que les Français s'inquiètent face aux signes de résurgence de l'épidémie et après l'appel de nombreux médecins qui demandent davantage de vigilance et qui plaident pour une généralisation du port du masque, eh bien le chef de l'État a donc tranché, Claudia Bertram.
Effectivement, le chef de l'État l'a annoncé, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics clos, et ce, à partir du 1er août. Il y a besoin d'un socle réglementaire, fait savoir l'Élysée. Emmanuel Macron qui justifie cette décision. Il y a des signes que l'épidémie repart un peu, et pour y faire face, les masques donc, mais aussi les tests. Il sera désormais possible de se faire tester sans ordonnance. Le président qui appelle les Français à la vigilance pour éviter de reconfiner, même s'il écarte le scénario d'un reconfinement total.
On a pris la mesure la plus radicale, la plus dure, qui était le confinement. C'est aussi la plus basique, si je puis dire, avec des tas de conséquences. Je ne veux pas de cela à nouveau pour le pays. Et donc, nous sommes en train de tout faire pour éviter une nouvelle vague et pour avoir une approche différenciée si elle apparaissait.
Un éventuel reconfinement se ferait donc localement. Nous serons prêts en cas de deuxième vague, assure le chef de l'État, qui affirme aussi que si Sanofi trouve un vaccin, la France serait parmi les premiers pays à en bénéficier. Manière de répondre à la polémique lorsque le laboratoire français laissait entendre qu'il pourrait favoriser les Américains. Mais Emmanuel Macron tempère, il serait absurde de faire du nationalisme sanitaire.
Les précisions de Claudia Bertram pour Europe 1. Le port du masque obligatoire, il était temps pour l'infectiologue Anne-Claude Crémieux.
L'important, c'est que ça vienne avant que la circulation du virus soit hors de contrôle. Jusqu'à présent, on peut encore espérer freiner cette circulation. Évidemment, le plus tôt cette mesure sera mise en œuvre et le mieux ça sera. Donc moi, j'invite absolument tout le monde à, dès demain, porter systématiquement un masque dans les lieux clos, sans attendre évidemment le 1er août. Vous savez qu'avec ce virus, on est vraiment à quelques jours près. On l'a vu lors de la première vague, il suffit de quelques jours pour se l'être dépassé et avoir finalement des foyers incontrôlable. Il faut rappeler que l'efficacité des masques est optimale quand tout le monde porte le masque.
Anne-Claude Crémieux, membre de l'Académie de médecine et infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, jointe pour Europe 1 ce soir par Jeanne Bergaoui. L'aspect sanitaire, c'est l'un des thèmes abordés donc à la mi-journée par le chef de l'État dans cette interview. Mais le président a essentiellement insisté sur une autre crise, la crise économique qui s'annonce, on le sait, terrible, avec en particulier une explosion du chômage à venir, entre 800 000 et 1 million de chômeurs supplémentaires au printemps prochain. Olivier Samain, Emmanuel Macron s'est montré particulièrement inquiet à propos de la situation des jeunes et il annonce à leur attention, un plan d'envergure.
Oui, la principale mesure de ce plan, c'est la mise en place d'une exonération de cotisations sociales pour les jeunes qui seront embauchés par les entreprises, à condition que leur salaire ne dépasse pas 1,6 fois le SMIC, autrement dit 2 400 euros bruts par mois. Ce sera une mesure temporaire, 1 à 2 années, a dit Emmanuel Macron, mais il y a encore beaucoup de points à éclaircir. Les jeunes, jusqu'à quel âge ? 25, 30 ans ? La nature des contrats, est-ce que ça concernera tous les contrats d'embauche ou uniquement les CDI ? On aura le détail dans quelques jours, nous précise ce soir le ministère du Travail. Dans ce plan pour les jeunes, Emmanuel Macron annonce aussi la création de 300 000 contrats d'insertion. Vous noterez que c'est le retour des contrats aidés. 100 000 places supplémentaires en service civique et 200 000 places dans des formations qualifiantes supérieures pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études avec un accompagnement social.
Olivier Samain qui reste avec nous, mais on va d'abord entendre les réactions à ces annonces. Écoutez la présidente de la FAGE, la première organisation étudiante de France. Pour Orlane François, cette exonération de charges, certes utile pour les plus fragiles, laisse quand même au bord du chemin une partie de la jeunesse.
On a aussi des étudiants qui vont être diplômés, par exemple, d'un master 2. Ce n'est pas des étudiants qui ont un capital social toujours très élevé, comme certains pourraient le croire, etc., qui vont être là à la recherche d'un emploi maintenant et qui vont être en difficulté également pour trouver un emploi. Ces étudiants-là en master, ils ne rentrent pas dans les critères qui ont été donnés par le président de la République sur l'exonération des charges. Et ça, pour nous, c'est un vrai point faible. Au vu de la crise économique, le master ne va pas protéger les jeunes. Donc ça, il ne faut vraiment pas le mettre de côté. Et c'était déjà le cas sur l'apprentissage. Et bah, ils sont encore une fois exclus de ces annonces. Donc là, on a un vrai problème. Voilà. Pour nous, il faut aller sur ce volet-là. Même si, en effet, il y a une priorité importante à donner aux jeunes qui sont peu ou pas qualifiés, parce que c'est ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi.
Orlane François de la FAGE, jointe pour Europe 1, par Élise Danjean, le président de la République qui a également confirmé que la réforme des retraites ne serait pas abandonnée mais renégociée. Et il a également proposé un catalogue de mesures visant à protéger notre économie, toujours face à cette crise inéluctable. Un plan de relance chiffré par le président à 100 milliards d'euros qui viennent donc, Olivier Samain, s'ajouter aux 460 milliards déjà engagés.
Oui, avec un grand programme de rénovation énergétique qui s'appliquera d'abord aux écoles et aux EHPAD et un plan de relance du ferroviaire qui concernera aussi bien le fret qui doit être redéveloppé massivement que les petites lignes qui seront modernisées et les trains de nuit. Alors comment financer ces 100 milliards ? Surtout pas par une hausse d'impôts, a dit Emmanuel Macron. Le chef de l'État laisse simplement entendre que la suppression de la taxe d'habitation pour les ménages les plus riches, qui devait intervenir d'ici à la fin du quinquennat, pour les moins riches, c'est déjà fait, cette suppression. Eh bien, cette suppression pourrait être décalée. Ces 100 milliards seront donc financés par la dette et par le plan de soutien européen.
Les précisions d'Olivier Samain du service économie d'Europe 1. Parmi les autres grands dossiers qui attendent le chef de l'État pour ses deux dernières années de mandat, il y a bien sûr l'écologie. Et sur ce terrain-là, le président ne s'est pas vraiment étendu aujourd'hui, Jean-Gabriel Bourgeois.
Non, en effet, des grandes lignes, mais peu de concret. Voilà ce que déplorent les défenseurs de l'écologie. Seule nouveauté, l'annonce d'un redéveloppement massif du fret ferroviaire. À part ça, Emmanuel Macron a rappelé son ambition d'un grand programme de rénovation énergétique des écoles et des EHPAD. Tout ça permet de faire des économies, permet de réduire nos émissions polluantes, a-t-il déclaré, mais sans aucun autre détail. Sur 1h20 d'entretien, le député Mathieu Orphelin, ex-marcheur et proche de Nicolas Hulot, a compté seulement 7 minutes sur l'écologie.
Pour l'instant, on reste encore trop dans le flou sur la part que cette transition écologique peut occupé dans la sortie de crise et dans cette construction d'un nouveau chemin.
Emmanuel Macron est aussi revenu sur la question d'un référendum pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Ça avance, note Grégoire Frati, un citoyen de la Convention pour le climat.
De ce que j'ai entendu, il veut mettre en place ce référendum pour l'article 1 le plus vite possible et ça, c'est un très bon signe pour nous parce qu'on parle quand même de demander à tous les Français un dimanche matin de se prononcer pour ou contre la protection de la biodiversité, du climat et de la lutte contre le dérèglement climatique.
Mais lui aussi regrette que le président ne soit pas entré dans le concret. Il espère maintenant des détails avec la déclaration de politique générale du Premier ministre demain à l'Assemblée nationale.
Que l'on suivra évidemment également sur Europe 1. Jean-Gabriel Bourgeois, voilà donc pour le fond. Sur la forme, cette interview d'Emmanuel Macron censée durer 45 minutes, s'est prolongé pratiquement 1h30, avec notamment Jean-Rémy Baudot, un mea culpa.
Oui, c'était même un très long mea culpa, plusieurs minutes au début de l'interview où le président a fait preuve d'humilité. Sur son attitude depuis le début du quinquennat, j'ai laissé paraître quelque chose que les gens ont fini par détester, dit-il, même s'il plaide le jeu politique et, je cite, des maladresses. Emmanuel Macron a reconnu qu'il n'avait pas réussi à expliquer son projet. J'ai donné le sentiment aux Français que je voulais réformer malgré eux. Ces réformes, néanmoins, Emmanuel Macron les assume et il ne compte pas se renier. Nouveau Premier ministre, nouvelle équipe, mais pas nouveau cap, a précisé le président. Et pour la première fois en public, il justifie le choix de son nouveau gouvernement. Jean Castex, je l'ai vu faire pendant le confinement, a-t-il dit. J'ai vu sa méthode, c'est un élu de terrain avec la culture du dialogue, fin de citation. Jean Castex, qui demain prendra la parole devant l'Assemblée pour sa déclaration de politique générale, il sera plus technique que le président, précise ce soir l'Élysée. Un Premier ministre de droite pour un gouvernement de droite? À cette question, Emmanuel Macron s'est dit radicalement en désaccord avec cette idée. Aujourd'hui, il a une nouvelle fois mis en avant ce qu'il nomme le dépassement politique, avec une formule toute dans la sobriété. Je prends les meilleurs.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. On notera également qu'Emmanuel Macron a annoncé la généralisation des caméras piétons pour les forces de l'ordre afin de lutter contre les contrôles aux faciès et de tenter de réconcilier les Français avec leur police. Et puis on le sait, le président était aussi très attendu sur la nomination controversée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, alors qu'il est sous le coup d'une plainte pour viol. Écoutez la réponse du président.
Si, à partir du moment où quelqu'un est accusé, n'est pas jugé, il devient, en quelque sorte, la victime d'un jugement de rue ou de réseaux sociaux, parce qu'il y a une émotion, et je peux comprendre cette émotion parce que je partage la cause, alors s'impose le choix politique démocratique de dire celui-ci ou celle-là ne peut pas avoir de responsabilité politique.
Mais vous n'avez pas...
Notre démocratie change de nature. Elle devient une démocratie d'opinion.
Et les réactions à cette interview du chef de l'État aujourd'hui, le Parti socialiste estime qu'Emmanuel Macron n'a pas su tirer les leçons de la crise. Pour la réinvention, on repassera, dit Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains. Pour Jean-Luc Mélenchon, Macron dit vouloir reconstruire en 600 jours ce qu'il a détruit en 3 ans. Tandis que Yannick Jadot estime qu'il n'y a rien de précis, aucun calendrier. Les mots ne masquent pas l'impuissance et l'inaction politique pour l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h11, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal et au-delà de cette interview présidentielle, c'est l'image qui restera de ce 14 juillet 2020, pas comme les autres. La cérémonie place de la Concorde à Paris, avec côte à côte des militaires entraillés et des soignants en blouse blanche. Moment fort d'un défilé sans remontée des Champs-Élysées, sans véhicule et sans public. Défilé que vous avez suivi pour Europe 1, Hélène Terzian.
Et oui, après les applaudissements des anonymes tous les soirs à 20h sur les balcons, les soignants se sont avancés aujourd'hui sur la place de la Concorde sous les applaudissements des plus hauts représentants de l'État. Un moment très fort lorsqu'ils rejoignent les militaires pour déployer un immense drapeau tricolore. Audrey Roux, infirmière à l'hôpital Necker à Paris, fait partie des 10 soignants présents pour ce tableau final.
D'arriver comme ça et que tout le monde applaudisse, c'était assez impressionnant. Ça a été, moi vraiment l'émotion elle est montée directe et j'entendais aussi mes collègues qui disaient ah, c'est émouvant, on a un peu toute notre larme. C'est vrai qu'après cette crise, les civils aussi, les soignants aussi, il faut les mettre en hommage le 14 juillet. C'est une fierté, c'est un honneur, c'était une bonne idée.
La jeune infirmière également touchée par les mots de Brigitte Macron. La première dame est venue la saluer, la remercier, même lui demander si elle allait prendre quelques jours de vacances. Un sentiment de communion ressenti aussi depuis les tribunaux de nombreux soignants étaient invités parmi les 1500 représentants de la société civile. C'est le cas de Marie-Laure Salviato, médecin généraliste dans l'Essonne.
C'était impressionnant. La présence des soignants avec les militaires, je trouve que c'était un message fort qui était envoyé à toute la population. Et puis c'est un peu tous les Français aussi. C'est quelque part, c'est toute une nation qui s'est sentie concernée.
Il fallait faire ce geste aujourd'hui envers les soignants, insiste-t-elle. Mais pour tous les professionnels de santé que j'ai rencontrés, ce n'est pas assez. Ils attendent désormais une amélioration concrète de leurs conditions de travail.
Hélène Terzian qui a donc suivi ce 14 juillet, pas comme les autres. Et justement, les soignants à l'honneur ce matin, mais en colère cet après-midi. Beaucoup d'entre eux ont encore manifesté aujourd'hui un peu partout en France pour dire leur déception face aux accords signés dans le cadre du Ségur de la santé. Accord qu'ils jugent insuffisant, 180 euros mensuels de hausse de salaire. Insuffisant donc, ce plan ne permettra pas d'améliorer à terme. Selon eux, la situation de l'hôpital public, notez que des gilets jaunes se sont même joints au défilé parisien. Un mot encore des grands titres de l'actualité, les autres titres et l'hommage rendu aujourd'hui aux 86 victimes de l'attentat de Nice, fauché par un terroriste sur la promenade des Anglais. C'était il y a 4 ans toujours, tout juste lors des festivités du 14 juillet. Cérémonie en présence des familles des victimes, suivie pour Europe 1 par Frédéric Michel.
Des roses blanches et 86 bougies allumées, tour à tour, les familles, mais aussi des rescapés présents ce matin, se sont recueillis quelques instants au pied du mémorial. À côté, il y a la mer, la promenade des Anglais, le théâtre de cette nuit tragique. Certains n'ont pas trouvé la force de venir, 4 ans après l'attentat, et dans toutes les têtes, et la plaie est béante. Thierry Vimal a perdu sa fille ce 14 juillet 2016. Il co-préside l'association Promenade des Anges.
Nous déplacer en ville en juillet nous rappelle l'été 2016, où nous courions d'institutions en cellules d'accueil, de casernes en hôpitaux, sidérés par la douleur, harcelés d'images terribles, pleurant tour à tour de chagrin, de fatigue, de rage, de résignation.
Après la lecture d'un texte de Grand Corps Malade,
exprimé la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur.
Christian Estrosi, le maire de Nice, a pris la parole rappelant le devoir de mémoire.
Le temps passe, ne le laissons pas nous dépasser. Il ne sera pas dit qu'une tragédie chasse l'autre.
Et le porte-parole de l'association Mémorial des Anges de faire le parallèle avec la crise sanitaire que nous traversons.
Pour les victimes et proches de victimes d'un acte terroriste, le Covid et ses conséquences ont un goût de déjà vu. Tout ressemble à ce qu'il y avait avant, mais rien n'est plus pareil.
Puis à la fin de cette courte cérémonie, les noms des 86 victimes ont été égrenés.
Laura Borla.
Adib Boussefia.
Le reportage de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. L'Angleterre prend des mesures radicales contre Huawei. Londres a décidé en effet aujourd'hui d'exclure le fabricant chinois de tous ses réseaux. L'achat d'équipements Huawei sera interdit à partir de la fin d'année. Le Royaume-Uni veut ainsi se prémunir de tout espionnage. Huawei dénonce une décision politisée et décevante. La Maison-Blanche, elle, se félicite d'un consensus international grandissant. Et puis l'affaire Jeffrey Epstein. Son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell plaide non coupable de trafic de mineurs et d'incitation à la prostitution. Elle est accusée pourtant d'avoir recruté des jeunes filles, dont certaines mineures, pour le financier. On jette un œil tout de suite sur la météo. Et c'est avec vous, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, un peu plus de soleil, mais toujours des averses.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Oui, c'est bien résumé, effectivement, Isabelle. Et la perturbation qui est arrivée aujourd'hui sur le pays, eh bien, elle continue d'avancer direction l'Est demain. Alors, de l'Alsace à l'Auvergne, le ciel est très nuageux avec des petites averses demain matin. Et puis, dans l'après-midi, la perturbation va se concentrer sur l'Alsace, les Alpes, le Massif central et le Limousin. Donc, dans toutes ces régions de France, vous aurez des nuages avec des averses localement qui vont ponctuer votre après-midi. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil brille demain avec toujours le Mistral et la Tramontane qui pourront souffler jusqu'à 70 km/h, ce qui dégage le ciel. Voilà pourquoi nous n'avons pas de nuages en bord de Méditerranée. Alors, à l'arrière de la perturbation, sur la Bretagne, la Normandie, le Nord, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, la façade atlantique et les Ardennes, et bien là, le soleil est de retour. Bonne nouvelle. Les températures, elles sont en légère baisse demain avec 11 à 17 degrés du nord au sud le matin, jusqu'à 20 degrés en bord de Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, 19 degrés à Brest, ça baisse, 21 à Caen, Dijon et Pau, 22 degrés à Lille, Biarritz et Strasbourg, 23 à Nancy et Paris, 25 à Lyon, 27 à Nice, 29 pour Bastia. Et puis il fait toujours chaud et lourd dans le sud avec 30 degrés à Toulon, 31 à Marseille et 32 à Nîmes. Et puis je sais, Isabelle, que vous voulez savoir à quoi vont ressembler les prochains jours. Encore un petit peu de patience. Jeudi, le ciel ne sera pas complètement dégagé. Vendredi, le soleil sera bien plus présent. Et puis ce week-end sera vraiment estival avec des températures au-dessus des 30 degrés et beaucoup de soleil.
Vivement le week-end, donc la météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h18, merci à vous d'écouter Europe 1 et comme tous les soirs, c'est l'heure de la chronique Un livre pour l'été qu'Europe 1 vous propose en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Aujourd'hui, on s'arrête sur un roman qui nous ramène à une période très sombre qu'a traversée l'Algérie il y a 30 ans. Une décennie noire qui a ravagé le pays, qui a eu des répercussions sur le sol français. La guerre est une ruse, c'est le titre de ce livre.
Fin des années 80, début des années 90, l'Algérie connaît une ouverture démocratique, du moins sur le papier. Elle va tourner court, les généraux algériens vont assez rapidement clore cette parenthèse après la victoire électorale du Front islamique du Salut. Proclamation de l'état d'urgence, arrestation, torture, enlèvement, attentat, une spirale de violence s'enclenche, une guerre civile qui va ravager le pays pendant une décennie. C'est ce cadre historique et géopolitique qu'a choisi Frédéric Paulin pour installer son intrigue. Un polar qu'a adoré Monica Irimia, libraire chez Mola.
Le Front du Salut islamique est en passe de prendre le pouvoir. À partir de là, si vous êtes fan du Bureau des légendes, vous allez adorer le personnage principal qui s'appelle Taj Ben Lazar, qui bosse pour la DGSE, qui aime bien mettre un peu son nez là où il ne faut pas. Il y risque aussi son poste, il risque sa place. Les esprits fragiles doivent s'abstenir, parce qu'il y a des scènes de torture et des scènes de violence qui sont assez impressionnantes. La force du livre, c'est qu'il nous permet de se poser et d'essayer de comprendre en prenant le fil historique, le fil factuel des choses. Ce n'est pas un roman qui justifie quoi que ce soit, c'est un roman qui explique. comme un professeur d'histoire expliquerait à ses élèves, mais avec un style et une gouaille, une écriture qui vous embarque dès les premières pages. N'ayez pas peur si vous ne lisez pas de polar géopolitique ou de polar historique. Ça n'a aucune importance. Tout se joue, encore une fois, dans les personnages.
Avec en particulier cet officier français de la DGSE qu'a donc créé Frédéric Paulin.
Mon héros, qui s'appelle Tedj Ben Lazar, est un agent de la DGSE français en poste en Algérie. Il s'aperçoit lors d'interrogatoires un peu poussés de terroristes islamiques qu'il y a des liens assez étranges entre les renseignements militaires algériens et ces groupes islamiques armés, les GIA. Rapidement, il va avoir la conviction qu'il y a manipulation de la part des militaires. En gros, sa théorie étant que les militaires, pour rester au pouvoir, doivent continuer à voir un pays qui sombre dans le chaos. Il va faire remonter ses informations au gouvernement français qui va commencer à prendre langue avec les généraux algériens et leur dire qu'il va falloir calmer le problème. Les généraux ne vont pas tellement apprécier et ils vont décider de mouiller la France au sens où ils vont commencer à manipuler le GIA vraiment pour orienter en fait la violence de l'autre côté de la Méditerranée.
La guerre est une ruse et le premier opus d'une passionnante trilogie que signe Frédéric Paulin. Elle se poursuit avec le tome 2, Les prémices de la nuit, et se conclut avec le tome 3, La fabrique de la terreur, paru il y a quelques semaines.
Ça donne envie, la chronique de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux, à retrouver tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc pour une autre découverte demain, même heure. Autre rendez-vous estival sur Europe 1, ça s'appelle La bonne idée. Et tous les soirs avec vous, Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette crise, se mobilisent et innovent.
La présidente et fondatrice du salon Made in France est avec nous. Bonsoir Fabienne Delahaye.
Bonsoir.
Votre salon, il aura lieu début novembre, si tout va bien, c'est toujours prévu.
Alors oui, et tout ira bien, 6, 7, 8 novembre, Paris-Port de Versailles, et on y accueille 600 entreprises fabriquent sur le territoire.
C'est ça, c'est qu'il y a toujours plus d'exposants, toujours plus de visiteurs également. Hein.
Absolument, on est passé de 2012 à 70 exposants, 15 000 visiteurs, à 100 000 visiteurs attendus, 90 000 l'année dernière, et 600 entreprises cette année. Donc il y a un engouement effectivement véritable pour la question du Made in France.
Engouement selon vous Fabienne Delahaye, dû également au Covid. On a envie de savoir d'où viennent nos produits.
Alors, oui, alors l'engouement est vraiment antérieur, mais disons que le Covid a mis un éclairage aveuglant sur les effets délétères de la désindustrialisation, c'est certain. Et les consommateurs souhaitent évidemment préserver les emplois, les savoir-faire, l'environnement sur le territoire.
Le Made in France crée de l'emploi dans des domaines que l'on a découverts pendant cette pandémie.
Alors oui, effectivement, et d'ailleurs la crise sanitaire, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la difficulté d'acheminer les produits importés et notamment les masques, en fait les entreprises de textile ont toutes joué le jeu, qu'elles fassent du jean comme 1083, des pulls marins comme Saint-Gemme ou les chaussettes La Bonne Halle et Bleu Forêt. Et en fait, elles se sont toutes mobilisées. Alors, une raison de plus pour les soutenir et surtout pour ne pas les oublier, parce que quand on était bien content de les solliciter avec le Covid.
Fabienne Delahaye, on parle beaucoup de relocalisation en ce moment. Il faut saluer également les entreprises qui sont restées sur le sol français.
Alors absolument, c'est la raison d'ailleurs, l'une des raisons d'être du salon. On parle beaucoup effectivement d'entreprises qui délocalisent, mais saluons aujourd'hui, en plus une journée propice aujourd'hui pour évoquer le Made in France, lequel est pluriel. D'ailleurs les visiteurs sont toujours surpris de la diversité, de la richesse des produits que l'on trouve encore sur le territoire, fabriqués en France. Il n'y a pas que le luxe et la gastronomie. Il y a des chaussettes aux vêtements, en passant par le vélo, les objets pour la maison, l'ameublement, le bien-être, la beauté, tout ce qui touche à l'accessoire de mode. Donc, petite, grande entreprise, la France est vraiment riche de tous ses talents.
Et on en parle régulièrement, bien sûr, tous les jours, même à 13h avec La France bouge sur Europe 1. Le salon du Made in France, donc les 6, 7 et 8 novembre prochains. Merci à vous, Fabienne Delahaye.
Et la bonne idée, c'est donc tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Dans un instant, on jettera un œil sur les unes de la presse, mais on va d'abord marquer une petite pause musicale ensemble en compagnie de Tom Gregory.
Many years ago is when it all began. You found a home in the palm of my hand. The minute I held you to my chest, I knew I'd found.
such a beautiful sound. Sing for me, my darling, won't you sing it for me? Let my fingertips keep playing your sweet melody. Sing for me, my darling, don't need no symphony. Let my fingertips keep playing your sweet melody. You help me write a song. Chase, I knew I'd found the only one for me. Such a beautiful sound. Sing for me, my darling. Won't you sing it for me? Let my fingertips keep playing your sweet melody. Sing for me, my darling. Don't need no symphony. Let my fingertips keep playing your sweet melody.
Tips de Tom Gregory sur Europe 1. Allez, on ouvre le journal, ou plutôt les journaux ensemble. Voici ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Masques, emploi, retraite, impôts, les choix du président, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Après une cérémonie particulière, Emmanuel Macron a donné une grande interview. On en parlait tout à l'heure dans votre journal. Préoccupé par le chômage, il met le cap sur l'emploi et le dialogue social et il annonce le masque obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août. Le cap masqué, titre Libération. Avec à la une la photo du chef de l'État et de son Premier ministre, Jean Castex, tous les deux masques sur le visage. Le journal qui revient également sur cette interview du 14 juillet du chef de l'État. Le président s'est borné à des annonces sur le port obligatoire du masque en lieu clos ou l'emploi des jeunes, sans tracer les grandes lignes de la fin de son quinquennat, écrit Libération. Cet été, tous avec nos masques, titre Ouest France. Priorité aux jeunes, écrit pour sa part le journal La Croix, qui rappelle que le président a mis la jeunesse au cœur de la relance des jeunes qui vont partir particulièrement pâtir, on le sait, de la crise économique et de la hausse du chômage qui s'annonce. Macron se réinvente en Macron, titre le journal L'Opinion. Le chef de l'État s'est livré aujourd'hui à un vibrant mea culpa sur la forme, promettant une nouvelle méthode de gouvernement avec la nomination de Jean Castex à Matignon. Tandis que pour le Figaro, Macron cherche encore le nouveau chemin. À la veille du discours de politique générale de son nouveau Premier ministre, le président a voulu tracer les grandes lignes de la fin de son quinquennat. Et puis tout autre sujet, demain, à la une des Échos, on en parlait tout à l'heure aussi dans votre journal, Londres chasse Huawei, les opérateurs britanniques interdits de se fournir auprès de l'équipementier chinois à partir de l'an prochain. Ils devront retirer ces équipements des infrastructures existantes avant 2017. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Très belle soirée à tous. À l'écoute d'Europe 1, il est presque 22h30 et vous retrouvez Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
À tout à l'heure, 23h pour un nouveau point sur l'info.
Exactement, à tout à l'heure.